Mais voilà qu'à son entour, le Hourvari reprenait, qu'il était bousculé, tiré, pressé, secoué, étouffé. Les 20 gaillards criaient tous ensemble, « je l'ai pris, c'est moi qui l'ai pris !» Plus que tous, un Gascon gueulait, « il est à moi, j'étais le premier à l'assaillir, et vous venez, Morbec, quand la besogne est faite !» Et Morbec de répondre, « que clamez-vous, trois ? Il s'est rendu à moi, pas à vous !» Et qu'elle allait rapporter gros, et d'honneur, et d'argent, la prise du roi de France. Et chacun cherchait à la gripper pour assurer son droit. Saisi au bras par Bertrand de Troyes, au col par un autre, le roi finit par être renversé dans son armure. Ils l'eussent séparé en quartier. « Seigneur, seigneur » criait-il, « menez-moi courtoisement, voulez-vous, et mon fils aussi, de vers le prince mon cousin. Ne vous battez plus de ma prise, je suis assez grand pour tous vous faire riche. » Mais il n'écoutait rien. Il continuait de hurler, « c'est moi qui l'ai pris, il est mien !» Et ils se battaient entre eux, ces chevaliers, gueules rogues et griffes de fer levées. Ils se battaient pour un roi, comme des chiens pour un os. Passons à présent du côté du prince de Galles. Son bon capitaine, Jean Chandos, venait de le rejoindre sur un tertre qui dominait une grande partie du champ de bataille, et ils s'y étaient arrêtés. Leurs chevaux, les naseaux injectés de sang, le mort enveloppé de baves mousseuses, étaient couverts d'écume. Eux-mêmes haletaient. « Nous nous entendions l'un l'autre prendre de grandes goulées d'air », m'a raconté Chandos. La face du prince ruisselait, et son camail d'acier fixé au casque qui enfermait le visage et les épaules se soulevait à chaque prise d'haleine. Devant eux, ce n'était que haies éventrées, arbrisseaux cassés, vignes ravagées, partout des montures et des hommes abattus. Ici, un cheval n'en finissait pas de mourir, battant des fers, là, une cuirasse rampait. Ailleurs, trois écuyers portaient au pied d'un arbre le corps d'un chevalier expirant. Partout, archers gallois et coutiliers irlandais dépouillaient les cadavres. On entendait encore dans quelques coins des cliquetis de combat. Des chevaliers anglais passaient dans la plaine, serrant un des derniers Français qui cherchait sa retraite. Chandos dit, « Dieu merci, la journée est vôtre, monseigneur. » « Eh oui, par Dieu elle l'est, nous l'avons emportée, » lui répondit le prince. Et Chandos reprit, « Il serait bon, je crois, que vous vous arrêtiez ici et fassiez mettre votre bannière sur ce haut buisson. Ainsi se rallieront vers vous vos gens qui sont fort épars. Et vous-même pourrez vous rafraîchir un petit, car je vous vois fort échauffé. Il n'y a plus à poursuivre. » « Je pense ainsi, » dit le prince. Et tandis que la bannière au lion et au lys s'était plantée sur un buisson et que les sonneurs cornaient dans leur trompe le rappel au prince, Édouard se fit ôter son bassinet, secoua ses cheveux blonds, essuya sa moustache trempée. Quelle journée! Il faut bien reconnaître qu'il avait vraiment payé de sa personne, galopant sans relâche pour se montrer à chaque troupe, encourageant ses archers, exhortant ses chevaliers, décidant des points ou pousser des renforts. Enfin, c'est surtout Warwick et Suffolk, ses maréchaux, qui décidaient, mais il était toujours là pour leur dire « Allez, vous faites bien !» Au vrai, il n'avait pris de lui-même qu'une seule décision, mais capitale, et qui lui méritait vraiment la gloire de toute la journée. Lorsqu'il avait vu le désordre causé dans la bannière d'Orléans par le seul reflux de la charge française, il avait aussitôt remis en selle une partie de son monde pour aller produire semblable effet dans la bataille du duc de Normandie. Lui-même était entré dans la mêlée à 10 reprises. On avait eu l'impression qu'il était partout. Et chacun qui ralliait venait le lui dire. « La journée est vôtre, la journée est vôtre. Ces grandes dates dont les peuples garderont mémoire. La journée est vôtre, vous avez fait merveille. » Ces gentilshommes du corps et de la chambre se hâtèrent à lui dresser son pavillon sur place et à faire avancer le chariot soigneusement garé qui contenait tout le nécessaire de son repas, siège, table, couvert, vin. Il ne pouvait pas se décider à descendre de cheval, comme si la victoire n'était pas vraiment acquise. « Où est le roi de France? L'a-t-on vu ? » demandait-il à ses écuyers. Il était grisé d'action. Il parcourait le tertre, prêt à quelque lutte suprême. Et soudain, il aperçut renversée dans les bruyères une cuirasse immobile. Le chevalier était mort, abandonné de ses écuyers, sauf d'un vieux serviteur blessé qui se cachait dans un taillis. Auprès du chevalier, son pennon, arme de France au sautoir de gueule. Le prince fit ôter le bassinet du mort. Eh oui, Archambault, c'est bien ce que vous pensez, c'était mon neveu. C'était Robert de Durazzo. Je n'ai pas honte de mes larmes. Certes, son honneur propre l'avait poussé à une action que l'honneur de l'Église et le mien auraient dû lui défendre. Mais je le comprends, et puis il fut vaillant. Il n'est pas de jour où je ne prie Dieu de lui faire pardon. Le prince commanda à ses écuyers, « Mettez ce chevalier sur une targe, portez-le à Poitiers et présentez-le pour moi au cardinal de Périgord et dites-lui que je le salue. » Et c'est de la sorte, oui, que j'appris que la victoire était aux Anglais. Dire que le matin, le prince était prêt à traiter, à tout rendre de ses prises, à suspendre les armes pour 7 ans. Il m'en fit beau reproche le lendemain quand nous nous revîmes à Poitiers. Ah, il ne mâcha pas ses paroles. J'avais voulu servir les Français, je l'avais trompé sur leur force. J'avais mis tout le poids de l'Église dans la balance pour l'amener à composition. Je ne pus que lui répondre, « Beau prince, vous avez épuisé les moyens de la paix par amour de Dieu, et la volonté de Dieu s'est fait connaître. » Voilà ce que je lui dis.